Shalom Ouvracha, Erev Tov, Lekoulam, Shalom, Shalom, Erev Tov, Lekoulam. Alors, comme à notre habitude dans cette étude, je vais vous demander de me faire signe si vous êtes bien là, si on est prêt, et comme ça on pourra, eh bien, commencer tout simplement, sans plus d'introduction. Hop là, je me prépare moi aussi. Hop là. Yofi. Yofi. Alors c'est parti les amis. Donc, comme je le disais, Erev Tov, les Koulam. Et on revient dans notre étude qui a commencé la semaine dernière sur la prophétie se réalise. Ou du moins, les prophéties qui se réalisent. Alors la semaine dernière, eh bien, Yofi, nous avons le Ishour officiel de la Midrashet Yehuda, on peut commencer. Donc la semaine dernière, comme je disais, nous avons commencé par expliquer et donner une introduction et une définition de ce qu'est la prophétie. Non seulement de ce qu'est la prophétie, mais de ce qu'est un prophète et de comment on va, Bezrat Hashem, eh bien, retrouver la prophétie et un jour ou l'autre. Mais la préparation au retour à la prophétie, eh bien, c'est tout simplement... Tout d'abord, la réalisation des prophéties qui ont déjà été données. Et donc, eh bien, c'est ce qu'on va commencer à voir aujourd'hui. Aujourd'hui, nous ouvrons, eh bien, notre première étude sur la réalisation des promesses des prophètes. Nous allons, en fait, voir, au fil de notre étude, aujourd'hui et les semaines suivantes, comment, dans plein de sujets différents, eh bien, les prophètes ont parlé, en d'autres termes, Dieu à dévoiler son projet et comment notre génération, je veux parler des 100, 150 dernières années et particulièrement en ce moment, eh bien, nous réalisons peut-être trop souvent sans le savoir les prophéties d'il y a de cela 2500 ans, 2700 ans, 3000 ans et ainsi de suite. Ok? Donc, c'est ce que nous allons essayer de commencer à voir aujourd'hui. Et notre première partie, notre premier chapitre, si on veut, va s'appeler, eh ben, vous avez vu le titre, Kibbutz Galouyot, le rassemblement des exilés. Kibbutz Galouyot Rabotai. Alors allons-y, je vous propose de rentrer directement dans le vif du sujet. Lorsqu'on parle de Névoa, lorsqu'on parle de Kibbutz Galouyot, eh bien les amis, il ne faut pas aller chercher très très loin. Attendez, il y a juste un truc qui n'est pas stable là où j'ai mis l'ordinateur. Une toute petite seconde. Où est les balais, une petite seconde. Stop, les plus. Voilà, là, ça va être bien. Là. Yofi. C'est très bien. Donc, Yofi, la caméra va se resituer dans 2 secondes. Tout ira bien. Donc, nous allons commencer donc par Kibbutz Galouyot. Lorsqu'on parle de Kibbutz Galouyot, eh bien, les amis, il faut bien tout de suite se mettre d'accord. Kibbutz Galouyot, c'est quelque chose qui est déjà mentionné énormément dans la Torah. Eh oui, on va pas avoir besoin d'attendre les Nevi'im Acharonim, ni les Nevi'im Rishonim, Yechezkel, Yirmiyahu, ainsi de suite, pour parler de Kibbutz Galouyot. La première fois qu'on va parler de ce sujet-là, eh bien, c'est dans la Torah. Alors, je vais jongler avec les prophéties, c'est-à-dire nous allons jongler avec plusieurs Nevi'im, donc je peux pas vous dire à chaque fois prenez le livre comme ça, je vais évidemment citer les prophéties et d'où elles viennent et tout ça, vous pouvez vous les noter et aller ensuite vérifier que j'ai pas dit de bêtises, hein, évidemment. Et donc, quand on parle évidemment de Shiva la Haaretz, ça commence dans la Torah. Évidemment, Kibbutz Galouyot, c'est quelque chose qui a déjà été prophétisé dans la Torah par Moshe Rabbeinu. Et oui, dans la paracha de Nitzavim, lorsqu'on nous dit dans le Sefer de Devarim, on dit Veshav Hashem Elohecha et Shevutecha Verichamecha Veshav Vekibetzecha Mikol Ha'amim Asher Efitzcha Hashem Elohecha Shama Im Yenidachecha Bikzeh Hashamayim Misham Mikabetzecha Hashem Elohecha Umisham Mikachecha Veviacha Hashem Elohecha Ed Haaretz Asher Yarshu Avotecha Virishta Veitivcha Veirbecha Meavotecha. Ça, c'est dans le livre de Devarim, au chapitre 30. C'est la névoie de la Teshuvah, c'est-à-dire Shiva et la Haaretz. Mes amis, ça, c'est déjà à la base quelque chose d'assez clair. Mais on va voir que cette dimension de Shiva Tzion, que Akadosh Baruch Hu a promis qu'il allait ramener son peuple, eh bien, ça va prendre des définitions plus claires au fur et à mesure de la Névoa. Pratiquement tous les prophètes, là pour le coup, pratiquement tous les prophètes ont parlé de Kibbutz Galuyot. Il y a certains sujets de la Névoa qui vont être plus présents chez certains prophètes et moins, voire pas du tout chez d'autres. Mais Kibbutz Galuyot, 80% des prophètes ont parlé de manière soit claire, soit de manière allusoire à Kibbutz Galuyot. Et donc, quand on parle de ce Trazara, eh bien, on connaît ce verset. On connaît ce verset du prophète Jérémie, de Yirmiyahu Hanavi au chapitre 31. Voilà, qui nous dit « Ko amar Hashem, kol barama nishma, nei bechit amrurim, Rachel mevaka albanea, me'ana leinachem albanea, ki enenu. » Ko amar Hashem, meni kolech mibechi ve'enaich midima, ki esh sachar li peulatech, נאום השם ושבו מארץ אויב ויש תקווה לאחריתך נאום השם ושבו בנים לגבולם. Là aussi Yirmiyahu va faire nous mettre en avant le dialogue entre Akadosh Baruch Hu et Rachel Imenu lorsque Dieu va nous dire יש שכר לפעולתך. Rachel, אל תדאגי, ne t'inquiète pas, tes enfants rentreront à la maison. Alors בסדר גמור, tout va bien. Mais lorsque nous allons maintenant rentrer dans l'explication de comment nous réalisons les prophètes. Alors certes, évidemment, Kibbutz Galuyot, c'est quelque chose qui nous paraît assez évident. Mais j'aimerais, dans notre étude, pour que ce soit bien clair, qu'on y aille étape par étape. Étape par étape, parce qu'on n'est pas venu du jour au lendemain à être 7 millions de juifs en Israël, à être près de 50% du peuple juif en Eretz Israël. Ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. Donc notre étude dans la réalisation des prophètes, de la prophétie des prophètes, eh bien, ne va pas être simplement une succession de névoïdes marquées dans le Tanakh, mais nous allons devoir également expliquer comment elles se sont réalisées dans les faits, dans la concrétude, si on peut dire, ça ne se dit pas, mais l'homme échané, dans les faits, dans le concret, dans l'histoire du peuple d'Israël, cette histoire qui est la nôtre, notre histoire récente. Abotai, un dernier petit verset avant de rentrer dans les chiffres et de rentrer dans l'historique, eh bien, c'est le prophète Yechezkel. Le prophète Yechezkel, lui aussi, évidemment, nous parle de Shiva El Haaretz dans le chapitre 11. Il va nous dire « Lachen emor ko amar Hashem » Ainsi parle Dieu. « Ko amar Hashem Elohim ve kibatzti etrem min ha'amim ve asavti etrem min ha'aratzot asher nefotzotem bahem ve natati lachem et admat Israël. » Donc les choses sont claires. Yirmiyahu, Yechezkel, on va voir que dans Ishayahu aussi c'est très souvent marqué. Dvarim, Moshe, les choses sont évidentes. Dieu a promis de nous ramener à la maison. Mais concrètement, comment ça va se faire? Est-ce que ça doit se faire de partout ou est-ce que ça doit se faire d'un endroit en particulier? Peut-être que Kibbutz Galuyot, ce n'est pas de tout le monde entier, mais peut-être que ça n'est simplement que d'un endroit. Peut-être qu'il ne faut ramener que les Juifs d'Europe de l'Est et il ne faut pas s'occuper des Juifs du Maroc, d'Algérie, de Tunisie, de Bagdad, du Yémen. C'est ce que pensait au départ Binyamin Zev Herzl. Eh bien oui, lorsqu'Herzl écrit son Altneuland, son pays ancien, pays nouveau, et lorsqu'il écrit avant cela l'État des Juifs, eh bien il faut comprendre que pour Herzl, il y a une alia sélectionnée. C'est-à-dire que la alia telle qu'elle est préconisée dans le livre de l'État des Juifs, ce n'est pas qui veut vient, c'est on va sélectionner ceux qu'on a besoin à un moment T et on va les faire venir. Si on a besoin d'ingénieurs, on va faire venir des ingénieurs. Si on a besoin de poalim, d'ouvriers, ben on va faire venir des ouvriers. Mais ce n'est pas open bar, comme on dit. Il se trouve que, eh bien, dans la réalité des faits, eh oui, car l'histoire n'est pas un livre, mais dans la réalité des faits, c'est pas Herzl qui va dire à Dieu comment on doit réaliser les prophéties. Et donc, eh bien, on est venu de partout. Et ça, c'est pour réaliser ce que Dieu avait déjà dit à Moshe Rabbeinu dans le livre de Devarim au chapitre 28, lorsqu'il nous dit, Ve'ifitzecha Hashem bechol ha'amim mikze ha'aretz ve'at ketze ha'aretz. Dieu nous a envoyé dans les nations d'un pays, d'un côté de la terre et de l'autre côté de la terre. Donc, lorsqu'il s'agira de nous ramener à la maison, eh bien, ça se fera également, évidemment, d'un côté de la terre et de l'autre côté de la terre, évidemment. Mais quand est-ce que ça commence? Quand est-ce qu'on commence à s'éveiller à Tzion? On a parlé de Shivat Tzion, on dit qu'on est la réalisation de la promesse des prophètes. Matai, comment? Qui que quoi qu'est-ce? Eh bien, les amis, ça va commencer de manière tellement petite qu'on ne peut même pas encore véritablement la prendre en compte. On pourrait parler d'il y a 450 ans, de la Aliyah de Rabbi Yosef Karo, du Harizal, un tout petit peu plus tard, de Or HaChaim HaKadosh. On pourrait parler du Rashash qui vient de Théman. Mais on est dans une époque où c'est tellement petit que pour l'instant, on ne peut pas encore, après coup, on saura qu'ils auront été les précurseurs. Mais ce sont trop des précurseurs pour qu'au moment des événements, on puisse dévoiler eh bien, une mégama, dévoiler une réalité qui se met en marche. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Eh bien, il faut savoir que la Géoula, c'est-à-dire Shivat Zion, le rassemblement des exilés, ne se fait pas d'un coup. Car nous dit le prophète Ishayahu dans le chapitre 27, il nous dit « Ve'atem teluketu le'achad echad b'nei Israël ». Dit Ishayahu à Navi, ça va se faire petit à petit. Et là, il va falloir qu'on commence à rentrer dans le vif du sujet. Lorsqu'on parle de Kibbutz Galuyot pour coller avec les prophéties, ça ne peut pas se faire pouf d'un coup. Ça se fait petit à petit, du moins au départ. Et effectivement, eh bien, c'est exactement ce qui se passe. Quand je vous dis c'est exactement ce qui se passe, il faut comprendre que c'est mamash exactement ce qui se passe. Comment est réparti le peuple juif en 1882, c'est-à-dire à la veille de ce qu'on va appeler la première alia? Ok? Eh bien, à la veille de la première alia, la répartition est très claire. En Eretz Israël, en 1882, de combien de juifs parle-t-on? Eh bien, les amis, on va parler en 1882 de simplement, et tenez-vous bien, ce sont des chiffres qui nous paraissent complètement fous, tellement ils sont petits. Mais en 1882, on parle tout simplement de 24 000 juifs en Eretz Israël. 24 000 juifs en Eretz Israël. Peut-être que le chiffre ne vous parle pas beaucoup, je vais donc parler en pourcentage. En 1882, la veille de la première alia, il y a 0,3% du peuple juif en Eretz Israël. 99,7% du peuple juif habite en Chutz La'aretz. Parler à ce moment-là du rassemblement des exilés, ça paraît complètement absurde. D'autant plus que entre il y a 500 ans et 1882, bon, il y a plus ou moins eu toujours 20 000 juifs en Israël. C'est-à-dire que ça n'a pratiquement pas bougé. Pratiquement pas bougé. Alors, qu'est-ce qui va faire que ça va bouger? Comment est-ce que vous pouvez imaginer que ça bouge? Alors, il y a la première alia. Il y a 1882. Certes, il y aura eu l'action de ce qu'on appelle Chovevei Tzion. Mais cette action reste quand même extrêmement limitée. Pourquoi? Eh bien, parce que en 1914, à la veille de la Première Guerre mondiale, nous sommes donc après la première et la deuxième alia, eh bien, les chiffres ont bougé. Mais tout dépend comment tu les regardes. En termes de pourcentage, on a l'impression que ça n'a pas bougé. Puisqu'en termes de pourcentage, en 1914, il y a 0,63% du judaïsme qui habite en Israël. 99,4% habitent encore en Chutz La'aretz. On se dit, bah alors ça n'a pas bougé. Ça n'a pas bougé. Mais quand on regarde pas les pourcentages, mais les chiffres, eh bien, à la veille de la Première Guerre mondiale, il y a quand même, attention, tenez-vous bien, près de 84 000 juifs en Israël. Et quand on y réfléchit deux petites secondes, c'est-à-dire que en à peine l'espace de 30 ans, eh bien, la communauté juive d'Israël a triplé. Et c'est énorme. Que dis-je triplé? Elle a quadruplé. Elle a quadruplé et c'est énorme. Alors que pendant 500 ans, ça n'a pas bougé. En 30 ans, ça quadruple. Qu'est-ce qui se passe? À ce moment-là, Akadosh Baruch Hu décide que c'est le moment de l'élaquet tipa tipa, comme on a dit. Veliketu, je reprends le verset de Ishayahu, Vatem teluketu leachad achad bene Israël. Tipim tipim. Petit à petit. Et à ce moment-là, Akadosh Baruch Hu décide qu'il va falloir revenir à une nouvelle dimension. Alors, Makara. Allô, allô? Pourquoi j'ai perdu tout le monde? Qu'est-ce qui se passe? Allô? Qu'est-ce qui se passe? Allô? Pourtant, je suis là. Allô? Shalom, shalom. Ma Corée. Allô, allô, allô? Est-ce qu'on m'entend toujours? Je ne sais pas ce qui se passe. On m'entend, on ne m'entend pas? Houston, Houston? Est-ce qu'on m'entend, on ne m'entend pas? Oui, non, non, oui, faites-moi un signe. S'il vous plaît, un petit signe. Qu'est-ce qui se passe? Oui, qu'est-ce qui se passe? C'est bizarre, pour moi, ça continue à tourner. Mais depuis le début, ça ne marche pas. C'est très très bizarre. Moi, ça me marque que ça continue à enregistrer. Mais quoi, c'est depuis le début de la vidéo, c'est comme ça ou ça vient de... C'est très bizarre. Moi, ça me marque rien. Non, non, bah non, c'est pas toi, parce que de 80 personnes, on est à 6 personnes connectées, donc c'est pas toi. Les gens qui sont encore connectés, vous m'entendez ou vous m'entendez pas? On me voit, on me voit pas? Très, très bizarre. Allô, allô? Non, personne ne répond. Bizarre. Oui, Monique, toi non plus, tu m'as perdu? Allô, allô? Mais qu'est-ce qui se passe dans ce pays? Qu'est-ce qui se passe? Allô, allô? Est-ce qu'on m'entend? Est-ce qu'on m'entend? Est-ce qu'on m'entend pas? Allô? Vous êtes revenu? Vous revenez? On m'entend? On m'entend pas? Houston, faites-moi un signe. Faites-moi un signe. Faites-moi un signe. Allô? Mais je suis en train d'essayer de voir. Mais là, ça reprend ou ça reprend pas? On me voit? On me voit pas? Parce que il y a des gens qui se reconnectent, donc ça a l'air de remarcher. Mais moi, chez moi, ça s'était pas arrêté. Très bizarre. Est-ce qu'on m'entend, messieurs qui sont connectés? Est-ce qu'on... C'est bon. Bon, c'est bon. OK. Alors, je ne sais pas où est-ce qu'on s'est arrêté? Alors, où est-ce qu'on s'est arrêté? Je vous ai perdu quand? Ah, d'accord. D'accord. Très bien, très bien. Très bien, très bien, très bien. Bon, bah, alors, je reprends. Top, les amis, je ne sais pas ce qui s'est passé. De votre côté, vous ne m'entendiez plus, mais moi, ça marquait que ça marchait toujours. Donc, j'ai parlé dans le vide pendant quelques minutes. C'est pas grave, on va attendre que les gens se reconnectent. Oui, ça marche. Bon, bah, je ne sais vraiment pas ce qui s'est passé. De mon côté, ça marchait, ça continue à marcher, mais pas du vôtre. Top, alors, Aîné. Oui, oui, allô. Je sais pas, il paraît que ça remarche. Comment ça ne marche pas? Il y a plein de gens qui se reconnectent. Ils se reconnectent. C'est remonté à... Je ne sais pas ce qui s'est passé. Moi, de mon côté, ça marchait tout le temps. J'ai continué à parler, ouais. Voilà, essaye de te remettre parce que là, je vois qu'il y a 40 personnes qui se sont remis déjà. Ouais. Alors, dis-moi toi, de ton côté, je reste en ligne. Comme ça, tu me dis si ça remarche. C'est bien. Bon. Bon, ok, ça marche. Tov, alors les amis, ça remarche. Je ne sais vraiment pas ce qui s'est passé. Tant, Bezrat Hashem, il n'y aura plus de coupure comme ça. Je ne sais pas quoi vous dire. Donc, alors, il paraît que vous m'avez perdu au moment où j'ai dit que la population a quadruplé. Donc, on est à la veille de la Première Guerre mondiale et la population en Eretz Israël est de 84 000 personnes. Ça paraît peu quand on regarde en pourcentage, comme je le disais, puisque ça ne représente que 0,6% de la population juive mondiale. Et donc, ça paraît pas grand-chose à la différence de ce qui s'est passé en 1882 avec 0,3%. Mais quand on regarde les chiffres, 84 000 personnes, c'est ben, une population qui a quadruplé. Et c'est oui quelque chose d'incroyable. C'est oui quelque chose d'énorme. Même si ça n'a pas encore des proportions qui font peur. Alors, la première étape, on a dit, de la réalisation de cette névoie, c'est que eh ben, ça reprend petit à petit. La deuxième étape, ça va être de donner un push. De donner un push à la résurrection nationale, un push à Kibbutz Galuyot. Comment ce push va-t-il arriver ? Il faut comprendre qu'à ce moment-là, Kadosh Baruch Hu a envie de réaliser les prophéties. Et donc, puisqu'il a envie de réaliser les prophéties, mais qu'il n'a pas envie de faire comme il a fait pendant la sortie d'Égypte, à savoir des grands miracles et l'ouverture de la mer Rouge, eh bien, il fait comme si de rien n'était des miracles absolument incroyables. Parmi ces miracles absolument incroyables, j'aimerais vous parler d'un homme. On est en 1914, on a dit, on est à la veille de la Première Guerre mondiale. En 1914, eh bien, personne ne pense que cette montée des Juifs en Israël veut dire quelque chose. Personne chez les Juifs, personne chez les Goïms. Vous comprenez? 0,6%, c'est rien du tout. Donc personne ne parle de Kibbutz Galuyot. À ce moment-là, eh bien, il va se passer quelque chose. Il va se passer quelque chose d'extrêmement bizarre. Il y a un homme qui est amiral de la flotte britannique. On n'est pas en 1914, cet amiral de la flotte britannique qui fait du commerce, eh bien, il est, on est dans le début tout seulement, début des années 1900, et il vient un jour faire du commerce sur le littoral d'Israël. Il est sous l'Empire ottoman à ce moment-là, lui il est britannique, mais il n'y a pas encore la guerre, donc le commerce existe. Il arrive donc avec son bateau sur le littoral, Yafo, tout ça, et il vient à Jérusalem. Il vient à Jérusalem parce qu'il est non-juif, mais fondamentalement protestant et anglican, et il a une foi profonde dans le Tanakh. Et donc, pour lui, venir à Jérusalem, c'est extrêmement important. La période est une période très particulière, parce que c'est Pessah. Il accoste 2 jours avant Pessah. Et à ce moment-là, eh bien, comme il fait partie, c'est un haut dignitaire britannique, eh bien, il va rencontrer des personnalités de Jérusalem de cette époque-là. Parmi les personnalités de Jérusalem qu'il rencontre, par hasard, évidemment, eh bien, il rencontre celui qui s'appelle Arishon Letzion. Alors, Arishon Letzion, début des années 1900, on n'a pas encore créé la Rabbanout Arachit l'Israël. Il n'y a pas encore le grand rabbinat d'Israël. Donc, le Arishon Letzion n'est pas le grand rabbin d'Israël séfarade. Le Arishon Letzion, depuis le XVIIe siècle, c'est le titre donné à, si vous voulez, le grand rabbin d'Israël, le grand rabbin de Jérusalem séfarade. C'est-à-dire, à ce moment-là, le Arishon Letzion s'appelle Rav Rafael Meir Pazniel. Et le Rav Pazniel, eh bien, reçoit la veille, il accoste, il arrive à Jérusalem 2 jours avant Pessah, mais la veille, eh bien, ce capitaine, amiral, je ne sais pas exactement quel était son grade, est reçu par le Rav Rafael Meir Pazniel. Et ben, ça fait plaisir. Et donc, à ce moment-là, il l'invite à passer avec lui le soir du Seder. Ah, vous allez me dire, ah, on n'a pas le droit d'inviter un non-juif et tout ça, machin, nanana. On n'a pas le droit d'inviter un non-juif, et pourtant, le Arishon Letzion, il l'a fait. Il invite donc ce jeune amiral, capitaine, je ne sais pas comment on dit, à passer le Seder avec lui. Et pendant toute la soirée, il va entendre les Shana Abba Birushalayim. Il va entendre la foi juive qui ne s'est pas ébranlée au bout de 2000 ans d'histoire, de ce rêve qui s'appelle Jérusalem. Et à ce moment-là, il se dit que ce serait quand même pas mal d'aider les Juifs à réaliser ce rêve bimillénaire. Bon, mais après, il reprend la mer, et puis, comme vous savez, c'est pas l'homme qui prend la mer, c'est la mer qui prend l'homme. Ta, ta, ta. Et donc, eh bien, les choses évoluent. Et puis, la guerre éclate. 1914, la guerre éclate. L'Empire britannique devient l'ennemi de l'Empire ottoman. Et à la tête de l'Empire britannique, il y a le roi d'Angleterre. Pas de problème. Seulement, ce roi d'Angleterre, il n'est pas fan des Juifs. Et il est encore moins fan de l'idée sioniste. Vous vous rappelez de notre petit amiral, notre petit capitaine ? Jamais de la vie, il doit devenir roi d'Angleterre, ce bonhomme. Parce que le bonhomme en question, il s'appelle George. George V, cinquième du nom. Mais il n'a aucune chance de devenir roi d'Angleterre. Il est effectivement le fils du roi. Mais il est le troisième des frères dans la fratrie. C'est donc pas à lui de succéder à son père, c'est à son grand frère. Et si jamais il arrive un truc à son grand frère, ce sera son autre frère. C'est pas à lui de devenir le roi d'Angleterre. Dans aucune constellation, on peut imaginer que George va devenir roi d'Angleterre. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? En 1916, on est en plein milieu de la guerre. Le roi meurt. Et le fils aîné meurt de maladie la même année. Et le deuxième meurt également au combat. Mais Rabotaille, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? En 1917, le roi d'Angleterre devient tout simplement George V. C'était pas prévu dans aucune constellation. Mais là, il est bombardé roi d'Angleterre. Et il va nommer, en tant que ministre des Affaires étrangères, un monsieur que vous connaissez qui s'appelle Lord Balfour. Mais les amis, vous comprenez que ce George V, qui devait pas être roi d'Angleterre, il va pas le rester longtemps. Il meurt 3 ans plus tard. Mais qu'à cela ne tienne, le mal était déjà fait. Le bien était fait. Dieu a voulu qu'il y ait la kibbutz galouyot. Il a fait en sorte qu'il y ait un roi d'Angleterre. Pendant 3 ans, ça suffit. Qui signe et qui donne l'aval de la déclaration Balfour à Bretagne. Une fois qu'on a la déclaration Balfour, eh bien, les voyants sont au vert. Les voyants sont au vert et les Bnei Israël commencent tout simplement à revenir. Mais Mazé, il commence à revenir. Là, tout d'un coup, ça prend des proportions qui commencent à être très, très, très bizarres. D'autant plus que, eh bien, à la fin de la guerre, il y a le mandat britannique sur Eretz Israël. Ce mandat britannique, eh bien, fait complètement abstraction lorsque, en plus, il est signé à San Remo. Lorsqu'il est ratifié par la SDN à San Remo, le mandat britannique reprend la déclaration Balfour, mais fait complètement abstraction de ce qui doit arriver des Arabes en Israël. On va créer un pays juif dans la terre d'Israël. Point. Et je vous rappelle, au cas où vous ne vous rappelleriez pas, je vous montre une petite carte de ce que devait être le mandat britannique. Vous l'avez ici. Voilà. C'est ça que doit être Eretz Israël. C'est-à-dire tout ce qui est Israël actuel et ce qui est également la Jordanie, bien évidemment. Donc, ça, c'est ce qui est censé être. Les choses vont évoluer. Comment ça, on n'entend plus, on ne voit plus ? Mais qu'est-ce qui se passe ? De nouveau ? Oh, il va voir, mais qu'est-ce qui se passe ce soir ? Allô, est-ce qu'on m'entend ? Qu'est-ce qui se passe ? Quand ça ne veut pas, ça ne veut pas, hein ? Les bonnes couleurs, l'abîme. Les gens m'entendent. Les gens m'entendent pas. Oui, non. C'est bon. On n'entend plus rien. On entend ou on n'entend pas ? Ah bon, alors, est-ce que je vois des gens dans le chat qui disent qu'on n'entend plus ? Ok, donc on entend. Tu es mon repère. Si on n'entend pas, tu m'envoies un message. Ok ? Ok, donc ça marche. Bekitsour, les choses évoluent. Les choses vont avancer. Ok ? Donc, qu'est-ce qui va se passer ? Tout d'un coup, les chiffres s'emballent. On était en 1914 à 0,6% du peuple juif en terre d'Israël. En 1924, qu'est-ce qui se passe? Boum! On ne sait pas ce qui vient de se passer. En 1924, ça a augmenté. Ça a augmenté énormément. Pourquoi? Parce qu'en 1924, Akadosh Baruch Hu continue dans son « j'ai envie de réaliser mes prophéties ». Donc en 1924, il va y avoir une loi qui va passer aux États-Unis. Cette loi qui va passer aux États-Unis s'appelle la loi Johnson. Et cette loi Johnson va tout simplement limiter le nombre de juifs, mais pas seulement de juifs, d'immigrants qui peuvent arriver aux États-Unis. Et oui, car le XXe siècle est un siècle qui voit l'immigration de juifs beaucoup vers les États-Unis. Mais avec la loi Johnson, eh bien, les juifs ne peuvent plus émigrer autant qu'avant aux États-Unis. Et donc, tout d'un coup, eh bien, puisqu'on ne peut plus aller aux États-Unis, eh bien, les regards commencent à se tourner sérieusement vers Eretz Israël. Quand je vous dis sérieusement, vous comprenez que lorsqu'on arrive à la veille de la création de l'État d'Israël, eh bien, on sera passé finalement donc en, combien? De 1914 à 1948, en à peine 40 ans, on sera passé de 0,6% à 5,7%. On sera passé de 84 000 personnes à tout simplement 650 000 personnes en Israël. C'est du jamais vu. Pour que vous compreniez bien, les amis, il faut comprendre de quoi on parle. Une personne sur 13, un juif sur 13 habite en Israël. Ça commence à devenir des proportions qui méritent d'être importantes, qui méritent d'être mentionnées. Et donc, on va pouvoir passer dans une nouvelle étape de Kibbutz Galouyot. Cette nouvelle étape, eh bien, elle nous est mentionnée évidemment dans les prophètes. Elle nous est mentionnée dans le livre de Jérémie, cette fois au chapitre 31. Nous dit Yirmiyahu Hanavi, après nous avoir ramené petit à petit, echad echad teluketu, nous dit le prophète, Ineni mevi otam eretz tzafon vekibatztim miyarkete eretz bam iver upiseach ara veyoledet yachdav ka'al gadol yashuvu hena. Ce n'est plus seulement Tipim Tipim maintenant qui va rentrer en Israël, mais c'est Kaal Gadol. C'est un grand nombre qui va arriver en Eretz Israël. Bevri yavo betachanunim ovilem el nachale maim bederech yashar lo yikashelu ba ki hayiti leYisrael leav veEfraim bechori hu. Rabotai, c'est plus maintenant petit à petit Tipim Tipim, mais ça devient des bons. Ce n'est plus on marche à quatre pattes et très lentement. Maintenant, ce sont des bons dans l'histoire. Si j'ai dit qu'en 1948, eh bien, c'est 5,7% du peuple juif qui est en Israël, à peine trois ans plus tard, en 1951, on est passé à presque 12% de la population. Mais vous comprenez ce que ça veut dire? Là aussi, en 3 ans, on a doublé la population. C'est énorme. En 1951, il y a près de 1 200 000 personnes qui sont, de juifs hein, évidemment, qui sont en Israël. C'est absolument incroyable. À ce moment-là, il va se passer quelque chose. Il y avait la Aliyah, évidemment, de tous ceux qui étaient en train de fuir. Bien sûr, après la Shoah, tout ça, bien sûr. Mais il y a tout d'un coup eu un nouveau miracle. Ah oui, qu'est-ce qui se passe? Tout d'un coup sont arrivés tous les gens qui n'ont pas fui avant la Shoah, mais qui ont fui après la Shoah. Et donc on a eu un apport énorme de juifs de Pologne, de Roumanie, et ainsi de suite. Et ça vous le savez, vous connaissez très bien l'histoire. Ah ben, à ce moment-là, c'était pas faisable de partir comme ça. Je vous rappelle que la Pologne, que la Roumanie, la Bulgarie, tous ces endroits-là sont sous le régime communiste. Mais on ne part pas comme ça en Eretz Israël. Nachon, a priori, on ne part pas comme ça en Eretz Israël. Sauf que, comme j'ai dit, Akadosh Baruch Hu, il a ses règles à lui. Résultat des courses, en 1951, il se passe un miracle. Pachout, un miracle. Pendant 9 mois, après, ils vont changer. Mais pendant 9 mois, la Pologne, la Roumanie, la Bulgarie vont tout simplement ouvrir les portes aux Juifs. Partez. Si vous voulez partir, partez. Ça va durer 9 mois. Et après, ils vont se reprendre, ils vont dire on se calme, on ferme les portes. Et on ferme les portes, et c'est après ce qu'on connaît, les réfusniks et tout ça, le bloc de l'Est. Mais pendant 9 mois, il y a eu une fenêtre où ces pays-là ont dit, ceux qui veulent partir, partez. Bah, près de 600 000 personnes sont parties. De partout. Et on est arrivé à près de 12% de la communauté juive qui est revenue en Eretz Israël. Ma korepo. Se rajoute à cela une autre alia. Il y a à peu près, bon, vous voulez des chiffres, je vous donne des chiffres, hein, on a à peu près 120 000 juifs qui vont arriver de Roumanie, près de 100 000 juifs qui vont arriver de Pologne, près de 50 000 juifs qui vont arriver de Bulgarie. À ce moment-là, eh bien, on va voir les paroles du prophète Yoël se réaliser. Les paroles du prophète Yoël nous dit dans le chapitre 3, Be'ar Tzion u Birushalayim tiye pleta ka'asher amar Hashem, um baseridim asher Hashem kore. Yerushalayim devient l'endroit de la pleta, l'endroit de refuge de ceux qui étaient persécutés là-bas. À ce moment-là, on va créer une nouvelle shruna, un nouveau quartier à Jérusalem, à l'extérieur des murailles, qui s'appelle Ezrat Nidachim, sur le mont des Oliviers, qui va être créé justement pour les nouveaux immigrants qui arrivent à Jérusalem. Les amis, vous commencez à comprendre ce qui est en train de se passer. Et puis là, il se passe un truc. On n'avait pas prévu. En 1951, le judaïsme, il est principalement d'Europe centrale, d'Europe de l'Est. Plus ou moins, bon, on sait qu'il y a des juifs en Amérique, mais sinon les juifs, ils sont en Europe. Alors, il y a tout d'un coup les juifs d'Afrique du Nord qui commencent à se réveiller. Et on va venir les chercher. On va commencer à parler de Mifza Marvad Aksamim. Mais on va surtout voir arriver une nouvelle alia. Quelle est cette nouvelle alia? Cette alia, elle a commencé en 1882, bien évidemment. Et elle ne s'arrête pas. Et il va y avoir, dans les années 50, un nouveau boom de cette alia. Cette alia, par exemple, dans les années 50, on va voir le Rav Yosef Kapar arriver de cette alia-là. Vous avez compris. Cette alia vient réaliser les paroles du prophète Ishayahu au chapitre Mem Gimel 43, qui nous dit « Al tira ki itecha ani mi mizrach avizar echa o mi ma'arav kabetzecha omar le tzafon teni » Dieu dit à ceux du nord de venir. C'est-à-dire, ceux du nord, on a compris. Ceux du nord, c'est la Russie, c'est la Pologne, etc. Tout ça, c'est clair. Ah ben, le verset continue. Amar la tzafon teni ou le teiman al tichlai avi banai mirachok ou venotai mikze haaretz. Il est temps de ramener également les juifs de Teiman. Bon, alors, je vous rassure. Teiman, dans la Torah, ça ne veut pas dire forcément l'État qui s'appelle aujourd'hui le Yémen. C'est toute la région du sud, dont le Yémen fait évidemment partie. C'est toute la région du sud du croissant fertile qui s'appelle Teiman dans la Torah, y compris Teiman. Et on va avoir donc la alia des Juifs du Yémen. Plus tard, on aura la alia des Juifs d'Éthiopie. Rabotai, il se passe un truc, tout simplement. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, à ce moment-là, comprenez bien deux secondes, lorsqu'on parle de la alia de ces gens du nord et du sud, lorsqu'on parle un petit peu de chiffres, c'est ce qu'on aime faire, à la fin des années 50, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, les amis, à la fin des années 50, début 60, on est à près de 20%. Près de 20% du peuple juif. Sur les 11,5, 12 millions de juifs qui ont survécu après la Shoah, et les amis, 20% d'entre eux sont en Eretz Israël. Mais c'est invraisemblable! C'est invraisemblable! Concrètement, il y a à peine, je répète, il y a à peine 50 ans, il n'y avait que 0,6% des Juifs qui étaient en Israël. Vous comprenez qu'on est en train de tout simplement réaliser Bekal Gadol Yashuvuena. Et ça continue. Ah oui! Vous ne croyez pas que ça va s'arrêter comme ça? À ce moment-là, On nous dit dans le prophète Ishayahu, chapitre 49, « Od yomru beoznair bene shikulair tsarli amakom geshali ve'asheva ve'amar bilvaver mi yaladli et ele ve'ani shekula ve'galmuda galo ve'sura ve'ele mi gidal hen ani nisharti levadi ele efoem » Le prophète Ishayahu nous dit que viendra un temps où on n'arrivera pas à croire et à se rendre compte. Mais comment c'est possible qu'il y ait autant de juifs? Je pensais être complètement détruite, perdue. On est dans l'après-Shoah, les amis. Qui aurait pu penser que le peuple juif allait renaître de ses cendres? Et ce n'est pas une allusion, c'est Mamash Tarte Mashma. La première alia du Théman est en 1982, très mal accueillie, surtout par la Moshava Kinneret. Ah ben évidemment, c'est ce que j'ai dit. J'ai dit le début de l'alia des Thémanim commence en 1882, bien sûr, tu as tout à fait raison. Et elle est très mal reçue. Moshava Kinneret, qui était complètement dirigé par des kibbutznikim, on va dire ashkenazim, et donc évidemment qu'ils n'étaient pas les bienvenus. Ils n'ont pas été les bienvenus d'ailleurs à pas mal d'endroits. Les seuls endroits où ils ont réussi à se faire une place, c'était à Jérusalem. Et pourquoi à Jérusalem, dans ce qu'on appelle Kfar HaTemanim, ils ont été très bien acceptés? Bon, d'abord parce que Kfar HaTemanim, il n'y avait personne d'autre, c'est eux qui ont mis en place l'endroit, mais au-delà de ça, parce qu'à Jérusalem, l'écrasante majorité des gens qui habitaient à Jérusalem étaient religieux. Et comme ils étaient religieux et que les Thémanim étaient religieux, eh bien, ils n'avaient aucun problème d'accueillir les Thémanim dans la mesure où, eh bien, à la différence des Juifs d'Éthiopie, où il n'y avait pas vraiment de contact pendant 2000 ans entre eux et le reste du peuple juif, ben, les Juifs du Yémen, ils ont toujours été en contact, les Rabbanim, les Talmidei Chachamim, étaient toujours en contact les uns avec les autres, les Juifs du Yémen, les Juifs de Bagdad, de Babylone, les Juifs d'Europe, il y avait des Itkatvouyot. Donc, si tu veux, pour tout le monde, c'était clair que les Thémanim étaient des membres à part entière du peuple juif. Et vu qu'ils étaient représentants aussi de la Torah, eh bien, dans les endroits où c'était des religieux, ils étaient beaucoup mieux accueillis. C'est vrai qu'ils ont eu énormément de mal. Mais la vérité, là, on n'est pas en train de parler du problème entre Ménaché, entre Yehuda et Ephraïm. Ça sera un autre cours. Ça sera une autre partie de notre étude de révélation des prophètes. C'est-à-dire, là, on est dans Shivat Zion. Qui aurait pu penser? Qui aurait pu penser? Je vous rappelle la Sicha du 26 Nissan Tafshin Nun Aleph. Tafshin Nun Aleph, c'est 1991, dans laquelle le Rabbi de Lubavitch nous dit que la sortie des Juifs de Russie, c'est ma mâche, kmo yetziat Mitzrayim. Et parce que oui, là, il faut comprendre que lorsqu'on parle de cela, eh bien, on va évidemment mettre avec tout ça les Juifs de Russie, les Juifs du bloc de l'Est, pas que de Russie. La chute du mur du Berlin, mais les amis, mais ça, c'était pas prévu non plus. C'était pas prévu, cet apport de centaines de milliers de juifs. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Qui aurait pu l'imaginer? Personne ne pouvait l'imaginer. Et comme je l'ai dit, eh bien, Omar le Tzafon Teni ou le Teman al Tichlai, Avi Banaï Mirachok ou Vnotaï Mikzeh Aretz, ça ne parle pas que des juifs du Yémen, mais ça parle également, évidemment, des juifs d'Éthiopie qui vont arriver dans les années 80. Les amis, c'est tout ça qu'on parle. C'est de tout cela qu'on parle. Lorsqu'on parle de kibbutz galouyot, eh bien, on parle de cette réalité que petit à petit, Am Israël est en train de revenir et c'est complètement pas naturel. On n'arrive pas à se représenter les choses avec une réflexion naturelle. Comment est-ce possible? Et ça continue. Ne croyez pas, ça continue. Je vais vous donner un tout petit peu de chiffres pour que vous arriviez à vous remettre un petit peu les choses en place, pour qu'on arrive jusqu'à aujourd'hui, pour qu'on arrive à aujourd'hui en 2020. En 2020, il faut savoir que 48% de la communauté juive du monde est en Israël. Et vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte? En termes de chiffres, on a dit en 1882, notez-vous ces chiffres-là parce qu'ils sont extrêmement parlants. Pour montrer à quel point Dieu a réalisé les promesses qu'il avait faites à ses prophètes. En 1882, on a dit 24 000 juifs. On a dit en 85 000 juifs. En 1917, pendant la guerre, il y a une yérida. Mais c'est dû à la guerre. Ça remonte juste après. Et boum, on est à la veille de la Shoah, plus de près de 450. Vous vous rendez compte? J'espère que vous vous rendez compte en termes de mathématiques. En 1900, entre 1914 et 1939, c'est pas long. En 25 ans. En 25 ans, on est passé de 84 000 personnes à 450 000 personnes. Fois 10! Fois 10! Et après, ça continue. 1848, on a dit 650 000. On a dit, 3 ans plus tard, on a doublé, on est à 1 200 000. Juste après la guerre des six jours, on a un nouveau pic! Énorme! En 1970, il y a 2 millions et demi de juifs qui sont là. 2 millions et demi, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça a fait encore une fois, ça a doublé. En quoi? Ça a doublé en l'espace de 20 ans. Là, encore une fois. On est en 1990. En 1990, le bloc de Berlin, le bloc de l'Est tombe. Boum! 4 millions de juifs sont en Israël. 4 millions! En l'an 2000, c'est près de 5 millions qui sont en Israël. Et aujourd'hui, en 2020, on avoisine les 7 millions de juifs en Israël. Est-ce que vous comprenez maintenant que, évidemment, ça ne s'est pas fait tout seul? Et évidemment, ça ne s'est pas fait en un coup, pouf! Parce qu'il y a une grande différence entre la Géoula que nous vivons aujourd'hui et la Géoula que nos ancêtres ont vécue en Égypte. Si le mot d'ordre de la Géoula de l'Égypte, c'était « Beripazon », rapidement, que tout doit se faire vite. Vous savez, le Korban Pessah, on l'a mangé quand on était le bâton à la main, quand on était les sandales aux pieds, quand on était prêt à partir. Il fallait être prêt. La Géoula de nous, notre Géoula, nous dit le prophète Ishayahu au chapitre 52, « Ki lo beripazon tetzeu » ובמנוסה לא תלכו, כי הולך לפניכם השם ומאסיפכם אלוהי ישראל. Ça va pas se faire en ripazon, en rapidité. Ça va se faire léat léat. Mais ça va se faire de manière tellement constante, doucement, doucement, et puis après rapide, rapide. Enfin non, pas rapide. Constant, doucement, doucement, et après beaucoup, beaucoup. Mais ça se fait. Il y a aujourd'hui, d'après... alors je vais vous dire exactement d'où je sors ce que je vais vous dire là maintenant. Les filles à Machon à Statistica, voilà, d'où est-ce que je sors? Quel Machon à Statistica? Le Machon à Statistique de Médinat Israël prédit, alors ce sont des estimations, mais si on continue, et je parle sans miracle, sans truc qu'on ne peut pas calculer dans les statistiques. Parce que je t'ai dit, l'arrivée du million de juifs de Russie, ce n'était pas statistiquement calculable. Mais si on reste sans un truc qui va se passer aux États-Unis, que tout d'un coup, tu as 2-3 millions de juifs américains qui vont arriver en Israël, que c'est un truc que tu ne peux pas prévoir au niveau statistique. Mais même sans ça, au niveau statistique, on prévoit que d'ici 2040, donc 2040 c'est dans 20 ans, ce n'est pas énorme, eh bien, ce ne soit plus 48-52, mais qu'on soit passé à 75% du peuple juif en Israël. Rabotai, c'est de cela qu'on parle. Zéo, juste que vous compreniez un tout petit peu les dernières années, c'est 20 000 juifs, presque 20 000 juifs qui sont arrivés en Israël en 2013, c'est 24 000 juifs qui sont arrivés en 2014, c'est 31 000 qui sont arrivés en 2015, c'est près de 27 000 qui sont arrivés en 2016 et près de 29 000 qui sont arrivés en 2017. Ça nous paraît, ah ben c'est pas assez. On les a pas vus, on les voit pas au quotidien, mais Rabotai, c'est énorme. C'est énorme. Le peuple juif en Israël est devenu la plus grande communauté juive du monde. La plus grande communauté juive du monde, c'est Eretz Israël. Après, il y a les États-Unis et après, il y a la France. Mais aujourd'hui, Eretz Israël est devenue la plus grande communauté juive du monde et demain, elle sera la majorité des juifs du monde. Shivat Zion, Kibbutz Galuyot, nous sommes clairement en train de le réaliser, de vivre la réalisation des promesses des prophètes. Seulement, ça ne s'arrête pas là. Car avec Kibbutz Galuyot, nous, on a parlé du côté positif, il y a un côté négatif. Ce côté négatif, il est double. Le côté négatif de Kibbutz Galuyot, il est tout d'abord que ça s'accompagne avec énormément de de gens qui refusent. Alors, pas les réfouzniks qui voulaient venir, mais que les goyim ont refusé, mais de gens qui, dans le peuple juif, refusent de croire que c'est possible. Mitkashim le Amin. Ils ne veulent pas y croire que c'est possible de revenir en Israël, et ça va être un frein énorme au kibbutz Galouyot. Et le deuxième problème, c'est qu'il y a kibbutz Galouyot, et il y a ceux qui ne viennent pas et qui disparaissent. Les difficultés de kibbutz Galouyot, eh bien, c'est ce qu'on verra ensemble dans la réalisation de la promesse des prophètes, kibbutz Galouyot, partie 2, la semaine prochaine. À bientôt tout le monde, en espérant que ça ne coupera pas de manière très bizarre la semaine prochaine. À bientôt les amis. Est-ce qu'il y a des questions avant que je coupe? Avant que je coupe, on a le temps. Est-ce qu'il y a des questions? S'il y a des questions, voilà, je laisse quelques minutes pour poser les questions. Et ensuite, je coupe. Donc, dites-moi s'il y a des questions. Question, pas de questions? Tic, tac, tic, tac, tic, tac. Je laisse encore 10 secondes. S'il n'y a pas de questions, eh bien, pas de questions. Non? Ce n'est qu'une étape et on reste statique. J'ai pas compris. Qu'est-ce qu'il en est du Kirouv Levavot de tous ces gens-là? De quels gens tu parles? Si tu parles des gens qui arrivent en Israël, il y en a plein du Kirouv Levavot qui est fait. Et si tu parles des gens qui sont encore en Chutz La'aretz, ça c'est ce dont on va essayer de parler la semaine prochaine. Donc je t'ai spoilé, mais je vais pas te faire tout le cours de la semaine prochaine. Là maintenant, sinon qu'est-ce qu'il me restera à dire? C'est-à-dire, pour ce qui est de ce n'est qu'une étape et on reste statique, je ne sais pas ce que tu veux dire Alex. Donc, je ne peux pas te répondre. En quelles quoi? En quelles années Sotari? Ah, mais c'est évident qu'après Kibbutz Galouyot, il faut continuer. Mais là, on est en train de parler de la réalisation de la promesse des prophètes. Là, on parle de Kibbutz Galouyot. Il y a d'autres choses qui vont se passer. Mais deux secondes, je ne peux pas tout dire en un seul cours, mais enfin. Vous voulez aller trop vite, hein, c'est pas possible. Ok, tout marche bien, Sanhedrin. Bon, très bien. Vous dites plein de choses très intéressantes, mais ce ne sont pas des questions. Donc, si vous n'avez plus d'autres questions, eh bien, les amis, Chazak Ubaruch, Toda Rabba, et on se retrouve à quid de ceux qui ne savent pas pourquoi ils sont juifs. Et ici, que faire de ceux qui ne savent pas qu'ils sont juifs? Tu parles de là-bas ou d'ici? Si tu parles de là-bas, c'est un vrai problème. Et ça, on en parlera la semaine prochaine. Si tu parles de ceux qui sont ici, il y en a très, 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 très peu qui sont ici et qui ne savent pas qu'ils sont juifs. Dans l'écrasante majorité, ils savent qu'ils sont juifs. J'irais même jusqu'à dire l'inverse, qu'il y en a qui pensent qu'ils sont juifs et ils ne le sont pas. Mais c'est pas dans l'autre sens. Arrivant en Eretz d'Afrique du Nord. Arrivant en Eretz d'Afrique du Nord, oui. Et bien. Ah, après. Ah, d'accord, j'ai compris. En quelles années sont arrivés les gens en Eretz d'Afrique du Nord? Eh bien, ça a commencé. Ben, d'abord, ils sont toujours arrivés. C'est-à-dire qu'il y avait des aliotes de Bodédim déjà au 19e siècle, machin. Donc, ça, il y a déjà des gens qui sont venus d'Afrique du Nord à ces époques-là. Mais si tu veux, le gros de l'arrivage des Juifs d'Afrique du Nord, c'était dans le début des années 50, ce qu'on appelait Miftza Marva Daksamim. Et après, ça a continué après dans les années 60, et ainsi de suite. Mais c'est à ce moment-là que ça a vraiment commencé. C'est aussi, ça correspondait aussi au moment où les pays d'Afrique du Nord ont imposé aux Juifs de s'en aller en laissant tout leur bien sur place. Donc il y a eu beaucoup de gens qui sont partis à ce moment-là. Est-ce qu'il y a eu beaucoup de non-Juifs dans les Aliotes? Non. Non, pas beaucoup. C'est-à-dire que dans la première alia, deuxième alia, troisième alia, il n'y a que des juifs. Je vais te dire mieux que ça. La première alia de 1882, c'est que des religieux. Tout le monde parle, l'alia des sionistes, c'était pas des religieux. La première alia de 1882, du Yémen, de Roumanie, de Hongrie, c'est que des religieux. Deuxièmement, la deuxième alia, il y a une grande partie de religieux, il y a également des socialistes qui arrivent en 1903, mais c'est tous des juifs. La troisième alia qui arrive après la déclaration Balfour, là aussi, c'est tous des juifs. Parce qu'à ce moment-là, quelqu'un qui n'est pas juif, il n'a aucun intérêt à venir en Eretz Israël. Donc c'est que des juifs. Le seul moment où on va commencer à poser une question sur ceux qui sont arrivés, est-ce qu'ils sont juifs ou pas, ça va être dans la alia de Mifsa Moshe, Mifsa Shlomo, à savoir les juifs, enfin les juifs d'Éthiopie qui sont arrivés, est-ce qu'ils sont juifs ou pas, ça a été une question. Finalement, il a été tranché que oui. Et ensuite, il y a, lors de la chute du mur soviétique, eh bien, dans l'alia des gens du bloc de l'Est, là, il y a eu des questions sur la judaïté de pas mal de gens, parce que pour plein d'entre eux, ils sont venus grâce à la loi du retour, qui permet à toute personne qui a un grand-parent juif de venir, mais qui n'était pas, selon la halakha, forcément des juifs. Donc, il y en a également qui sont venus à ce moment-là. C'est évidemment pas la majorité. Ce qu'on fait, c'est que, il faut qu'ils se convertissent à un moment donné. Et dans la société israélienne, l'armée a une grande part de responsabilité dans ces conversions-là, et c'est très bien. Beaucoup de chrétiens, quand même, des missionnaires, non. Il y en a, mais c'est mamash tuyot. Et dès le premier missionnaire qui avait été découvert en Israël, eh bien, a été fait passer une loi à la Knesset qui interdit la mission. C'est-à-dire que la mission est illégale en Israël. Donc, quelqu'un qui essaie d'être missionnaire en Israël, eh bien, il est poursuivi par la loi et il est expulsé du pays. Même s'il est israélien, même s'il a la Ezrachut israélienne. Donc, il y en a très, 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 très peu. Justement, comment les sensibiliser à leur identité juive, à leur relation avec la Torah? Eh bien, en les invitant chez toi Shabbat. D'ailleurs, ça va commencer par là. T'as qu'à les inviter chez toi Shabbat et leur montrer comment être juif dans la Torah, c'est un kiff. C'est une bonne première étape. Besaider, Tov, Rabotai, Chazak ou Baruch, et on se retrouve la semaine prochaine. À bientôt.